La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Découverte du métier de journaliste tout de suite sur Info RC. Durant une journée, les secondes G2 du lycée Marcel Gimon ont accueilli la classe de 4e média du collège La Ségalière à L'Argentière. C'était l'occasion de leur faire visiter le lycée que certains rejoindront dans 2 ans. Mais surtout, l'idée était de leur faire réaliser des interviews de journalistes, les 2 classes travaillant chacune de leur côté sur un projet d'éducation aux médias et à l'information. Les documentalistes de ces 2 établissements ont donc invité Hélène Richard du Monde Diplomatique, un journal national mensuel, et Anthony Gonzalez, journaliste au Dauphiné Libéré, journal hebdomadaire local. Ainsi, ils ont pu comparer 2 médias avec des périodicités et des échelles différentes, 2 méthodes de travail. Aujourd'hui, nous retrouvons l'interview d'Anthony Gonzalez du Dauphiné Libéré.
La grande interview.
Une émission de grande classe.
Bonjour et bienvenue dans la grande interview, une émission réalisée par la classe 4e média du collège La Ségalière à L'Argentière et les élèves de première du lycée Marcel Gimon à Aubenas. Nous sommes avec Icar, Paul, Nora, Noé, Lola et Anakin et nous interviewons Anthony Gonzalez, journaliste du Dauphiné Libéré. Nous allons aborder plusieurs thèmes avec vous. Pour notre premier thème, nous allons maintenant nous demander comment fonctionne le journal.
Alors un journal, pour prendre l'exemple du Dauphiné Libéré et de l'Ardèche, puisque c'est ce que vous connaissez le mieux, nous par exemple on a 3 agences. On a une agence à Annonay, une agence à Privas, une agence à Aubenas. Dans chaque agence, on a 4 journalistes et on couvre des zones qui généralement font entre 100 et 140 communes. Donc nous, on a une zone violente parce que c'est la 140 communes, donc à 4, c'est compliqué. Et on fait confiance à ce qu'on appelle des correspondants locaux de presse, donc des CLP. Et en fait, ce sont des gens qui sont présents dans les communes, qui ne sont pas des journalistes professionnels, mais simplement des personnes qui ont envie de parler de l'actualité du coin, tout simplement. Et donc, elles sont nos yeux et nos oreilles dans le territoire, et elles écrivent des petits articles sur des sujets de la vie de tous les jours. Une fois que ces sujets-là dépassent un peu le cadre de ce qu'un CLP est capable, selon nous, de faire, nous, on intervient et on prend le relais pour des sujets un peu plus importants. Et donc, une fois que nous, on fait ça, on a un service qui s'appelle le service du secrétariat de rédaction, où en fait, ce sont des gens qui sont dédiés exclusivement au montage des pages. Donc, c'est eux qui vont se charger de faire ce petit puzzle qu'est un journal page par page en mettant les articles, en essayant de les faire rentrer tous, ou du moins un maximum. Ils vont les relire. Si jamais ils ont besoin de précision, ils vont contacter ces correspondants, ils vont nous contacter nous parce que parfois on n'est pas clair dans ce qu'on explique aussi, ça peut arriver. Et donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que par exemple dans notre service départemental où se trouve le secrétariat de rédaction, on a des petites rédactions qui sont un peu à l'écart, c'est-à-dire qu'on a un service de faits divers qui est exclusivement chargé de rédiger tout ce qui concerne les accidents, les choses un petit peu graves qui se passent dans le coin. On a un service des sports qui va traiter de l'actualité sportive des 2 départements. Et donc, en fait, tout ça est régi par ce qu'on appelle des chefs d'info. Donc, ils sont 3 en Drôme-Ardèche. Ils se relayent et c'est eux qui organisent, par exemple, la téléconférence du matin dont je parlais tout à l'heure à vos collègues. C'est eux qui vont aussi faire les choix de prendre tel ou tel papier pour les pages départementales. Et c'est eux qui vont référer à la rédaction en chef de toute la journée de travail qui s'annonce. Voilà. Et en fait, vers 16h30, 17h, on a ce qu'on appelle la pagination. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir à l'édition du lendemain. On a un collègue qui nous appelle, qui nous dit « Pour votre édition locale, vous avez tant de pages. Comment vous voulez qu'on les répartisse par zone de vie ?» pour justement créer le journal du lendemain. Donc ça, c'est un exercice qui est assez difficile parce qu'il faut essayer d'anticiper les papiers qui vont arriver dans notre catalogue, puisqu'on a une espèce de catalogue avec toutes les zones, et il faut arriver à être suffisamment juste pour que l'actualité réponde aux pages qu'on a commandées. Voilà. Donc c'est un peu ce qui fait l'organisation de notre rédaction au quotidien.
Combien de personnes faut-il pour sortir un journal ?
C'est une bonne question, parce que est-ce que tu veux que je compte les correspondants ? En fait, on a les correspondants, là j'en parle, on en a environ 70 sur notre territoire, donc pour 140 communes. Ensuite, on a 4 journalistes, on a des chefs d'info, on a le secrétariat de rédaction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle du Dauphiné libéré, donc les 9 départements, on est 200 journalistes et 1500 correspondants. Donc c'est quand même une grosse machine. Puisqu'on ne compte pas notre chefferie, notre rédaction en chef, ce genre de choses. Mais du coup, oui, ça te donne un peu l'idée du nombre de personnes qu'il faut chaque jour pour rédiger seulement le journal. Et ensuite, on a nos confrères, enfin nos collègues de l'imprimerie. Là, je ne sais pas du tout les chiffres à l'échelle du Dauphiné libéré, mais c'est eux qui se chargent entre environ 20h et 2-3h du matin de faire imprimer le journal avant qu'il soit envoyé dans les départements concernés.
Est-ce que ce serait possible de sortir un journal de façon indépendante, complètement seul ou peut-être avec l'aide de 2 ou 3 amis ? Pas forcément grosse production, mais juste comme ça.
Alors c'est très compliqué parce que aujourd'hui, tu pourrais le faire uniquement sur le web. Parce que monter un site internet, ce genre de choses, à partir du moment où tu as des gens qui ont un certain savoir-faire, ça peut se faire dans un cadre assez réduit. Après, sortir un journal, c'est autrement plus compliqué parce qu'il faut trouver de quoi l'imprimer. Il faut trouver un modèle économique parce que du fait de la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de produits qui ont augmenté et notamment le papier. C'est pour ça que notre journal a été un petit peu augmenté en termes de prix. C'est pour ça aussi que le nouveau format qui est proposé depuis quelques mois existe. C'est parce qu'il a fallu trouver des moyens de réduire ce coût qui est devenu assez exorbitant. Donc, créer un journal de toutes pièces papier avec une équipe réduite, ça me semble compliqué. En revanche, créer ce qu'on appelle un pure player, donc comme est Mediapart par exemple, c'est-à-dire un site d'information qui ne produit uniquement de l'information que sur le web, ça c'est plus réalisable.
D'où viennent les idées de sujets ?
Eh bien, écoute, elles viennent d'un petit peu partout. On a à la fois le carnet d'adresses dont je parlais tout à l'heure avec ton collègue, puisqu'il y a des gens qui nous contactent de manière spontanée pour nous dire « Ah ben tiens, j'ai un nouveau truc pour vous, il faudrait qu'on se rencontre. » D'ailleurs, il y a un monsieur qui m'a appelé ce matin, faudrait que je le rappelle cet après-midi. On a les réseaux sociaux, parce qu'on estime que les réseaux sociaux, effectivement, c'est générateur de fake news, mais c'est aussi générateur d'endroits où il y a beaucoup de gens qui participent à la vie, à l'actualité de leur commune, à leur manière. Et donc, ils lancent parfois des initiatives, des choses comme ça. Donc, on se rapproche d'elles, on essaye de creuser un peu plus pour savoir si ça vaut le coup. Et parfois, on fait un sujet. Là, par exemple, il y a nos confrères de France Bleu qui ont sorti hier un sujet autour d'une jeune femme qui se prend en photo devant toutes les gares ferroviaires de l'Ardèche pour sensibiliser sur la disparition du train dans le département. C'est une jeune fille que j'ai rencontrée aussi et dont le papier va sortir mercredi normalement. Donc, tu vois, et en fait, c'est en me baladant sur X que je suis tombé sur son initiative. Et il y a aussi cette fameuse boîte rédactionnelle dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ont cette adresse mail. Quelqu'un leur a donné ou autre, et ils nous sollicitent par rapport à un sujet, par rapport à une initiative qu'ils ont lancée, par rapport à quelque chose qui les frappe dans leur commune. Et donc à ce moment-là, ils nous sollicitent, et pareil, on prend contact avec eux, on voit ce que ça vaut, entre guillemets, et ensuite il y a un article ou pas qui sort à ce sujet.
Comment est-ce que vous vérifiez vos sources sur les réseaux sociaux ?
C'est là que c'est important la notion de source, selon moi. C'est-à-dire que quand tu tombes sur une information sur les réseaux sociaux, il faut savoir d'où elle vient. Quelle est sa source originelle ? Et par exemple, il y a plein de petits moyens de savoir si une information est relativement fiable ou pas. Parce que je mettrais ça, comme ma collègue Hélène tout à l'heure, je dirais que quand tu es sur un compte que tu connais, il faut estimer qu'elle est relativement fiable, mais elle ne peut pas être fiable à 100% comme ça. Donc il y a plein de petits ressorts, mais par exemple, savoir si le compte est très actif. À une époque, il y a un truc qui nous aidait beaucoup l'air de rien, mais c'était la certification, par exemple sur l'ancien X, à savoir Twitter. Ça, c'était hyper pratique. Elon Musk a un peu décidé de mettre ça de côté, alors que c'était quand même une certaine garantie, parce qu'aujourd'hui, un compte qui paye, il est mis à la même hauteur quasiment qu'un compte du New York Times, ce que je trouve absolument scandaleux. Mais le plus important, c'est de voir... Quel est ce compte ? Est-ce qu'il est régulier ? Est-ce que dans les commentaires, déjà, il n'y a pas des gens qui, par exemple, commencent à remettre en doute ce qui a été publié ? Par exemple, si c'est des fichiers vidéo ou d'images, il y a des sites internet qui te permettent de faire une recherche inversée pour savoir si l'image ou la vidéo a déjà été utilisée. C'est par exemple dans ce cadre-là qu'on s'est rendu compte que sur plein de manifestations, sur le mouvement des Gilets jaunes ou par exemple pendant le Covid, il y avait plein de vidéos qui avaient été utilisées, qui voulaient faire croire qu'elles avaient été publiées 2 jours avant à l'origine, alors qu'en fait elles dataient d'il y a 5-6 ans. Et donc ça, c'est très important de toujours dans le principe de la curiosité à cultiver, d'aller au-delà de ce qu'on te propose et de vérifier vraiment la source et l'origine de ce que tu vois sur les réseaux.
Merci beaucoup. Avant de passer à la deuxième partie de notre interview, profitons d'une petite pause musicale. Avec notre invité, le journaliste Anthony Gonzalez. Nous allons passer à un autre thème qui s'appelle le défi du numérique pour les journaux papier.
L'écriture ou la mise en page change-t-elle entre presse en ligne ou papier ?
Oui, par exemple, le web, il n'a aucune contrainte. C'est-à-dire que tu peux écrire un article de 8000 signes, il n'y a aucune contrainte à le publier. La difficulté qu'on a dans le journal, c'est qu'on a un nombre de pages limité, on a de la place, on doit avoir de la place pour plusieurs articles dans chaque page, et donc forcément le calibrage fait que parfois la version sur le papier sera plus courte que ce que tu avais imaginé sur le web. En plus de ça, le web, ça nous offre la possibilité d'enrichir ce qu'on appelle un enrichissement de papier. Donc ça peut être un diaporama, ça peut être un son, ça peut être une vidéo. Par exemple, dans un des journaux qui tourne, qui date d'aujourd'hui, j'ai fait un papier sur la cuisine centrale d'Aubenas. Donc il y en a certains qui doivent la connaître, puisque si vous étiez dans les écoles primaires et maternelles d'Aubenas, c'est l'endroit où se confectionne le repas. Et donc sur le journal, donc, il y a l'article. Mais en complément de l'article, j'ai fait une vidéo pour le site internet et pour notre page Instagram, qui est consultable en ligne. Donc le web, ça a cette particularité d'être beaucoup plus souple que le format papier. Ça nous offre une plus grande place pour l'écriture, une plus grande liberté d'écriture, surtout quand tu as envie de développer un peu un certain style. Et le papier a un peu plus de contraintes, mais ça reste quand même un objet que les gens aiment bien avoir sur leur table. Donc on estime qu'il y a de la place pour les deux.
Merci. Et j'aurais une question. Est-ce que la presse est en difficulté à cause de l'information en ligne ?
Alors oui, parce qu'il y a énormément de modèles qui ont fleuri sur, en France. Il y a des sites internet qui existent et qui sont totalement gratuits, mais le modèle économique est très particulier parce que la publicité sur internet coûte beaucoup moins cher que la publicité sur le papier. On a d'autres contraintes économiques parce que, en fait, un journal papier, il est vendu 1,50€, tandis qu'un abonnement web, il est moins cher. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont privilégier juste l'abonnement web, là où le papier, ça reste quelque chose qui... Ça reste un objet, comme je disais tout à l'heure, et donc forcément, il y a l'envie parfois, tout simplement, le matin, de se poser, de laisser le portable de côté et d'avoir un journal papier. Donc ça, c'est un choix qui est fait, qu'on assume, de vouloir garder ce format papier, même si c'est vrai que ça pose beaucoup de contraintes, notamment avec la crise en Ukraine, l'inflation, le coût du papier qui est de plus en plus important. Mais dans des territoires ruraux, on estime qu'un journal aussi, il a encore son rôle à jouer, notamment avec son format papier. Et donc voilà, c'est difficile. Il y a des modèles économiques à trouver, notamment pour la part des papiers gratuits aussi sur notre site internet, pardon. Mais on essaye de trouver un équilibre et on espère un jour trouver ce modèle qui nous permettra d'affronter justement cette transformation vers le numérique.
Merci Monsieur Gonzalez, et nous allons passer au dernier thème, information, désinformation. Qui aurait une question ? Paul ?
Comment faites-vous pour rester objectif sur le sujet ?
C'est ce que j'expliquais à ta collègue tout à l'heure. En fait, l'objectivité, elle n'arrive qu'au moment où tu rédiges le papier. Donc le plus important, c'est d'accorder une place à toutes les personnes que tu as sollicitées sur un sujet et qui apportent des points de vue différents. Je pense que c'est là où ça se joue, l'objectivité. C'est pas forcément au moment où tu choisis l'angle que tu vas donner au sujet, mais c'est qu'une fois que tu l'as choisi, il faut arriver à proposer à ton lecteur un contenu qui lui permet d'avoir à la fois le pour, le contre, l'information et son contradictoire, pour que justement il puisse se faire sa propre idée vis-à-vis du sujet.
Êtes-vous tenté d'utiliser des titres qui suscitent de l'émotion pour attirer vos lecteurs ?
Alors ça, c'est une grande question qui se pose, je pense, au quotidien dans la rédaction. C'est ce qu'on appelle vulgairement sur YouTube le putaclic. Mais en fait, nous, on a une difficulté, c'est qu'à partir du moment où on estime qu'on travestit une information, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que nous, les titres sur le web, on essaye de les changer un petit peu par rapport à ces questions de référencement, par rapport à certains mots qui doivent être présents, pardon, pour que justement ils suscitent un clic. Mais en même temps, nous, notre intérêt, c'est pas du tout de proposer un titre qui est différent de ce qu'on propose dans le papier. Donc on essaye de les rendre un peu plus sexy. On fera jamais des titres comme ceux que tu peux voir sur YouTube, ça c'est sûr. Certains de nos confrères sur certains sites ont tendance à le faire parfois. Mais nous, on essaye de garder quand même un certain cap pour pas tomber dans ça et pour continuer à proposer des titres qui sont à la fois informatifs, qui sont engageants et qui restent très proches de ce qu'on propose dans le papier.
Est-ce que les journalistes peuvent faire des erreurs sur les informations qu'ils transmettent ?
Alors oui, parce qu'on reste des êtres humains avant tout. Ça peut arriver de se tromper comme tu te trompes dans un devoir, dans un examen que tu as passé alors que tu étais sûr de ton coup. C'est ce que je disais tout à l'heure, le plus important, c'est de ne pas avoir peur d'assumer. C'est ce qui est régi encore dans notre charte de Munich, mais il y a ce devoir-là, c'est de modifier, enfin de refaire un papier sur une information si elle a été fausse, si elle a été publiée. Parfois, on est contacté par des gens qui disent « Ah, mais c'est pas exactement ça », donc on fait ce qu'on appelle une précision dans le journal. C'est pour rappeler en quelques lignes que dans une édition précédente, on a évoqué cette information, mais que contrairement à ce qui a été annoncé, et on développe l'information telle qu'elle est. C'est pas pour ça qu'on accorde plus de confiance à une personne qui nous alerte sur ça. C'est-à-dire que, pareil, il y a un nouveau travail journalistique qui s'engage là pour être sûr que la correction apporte une certaine valeur ajoutée à ce qu'on a déjà publié. C'est-à-dire qu'une personne peut nous dire que c'est faux alors que nous, on est sûr que c'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est un exercice assez délicat, mais il ne faut pas avoir peur d'assumer de se tromper et c'est ce qu'on essaye de faire quand ça arrive.
Selon vous, est-ce que les fake news se sont énormément développées avec l'émergence des réseaux sociaux et est-ce qu'elles représentent un réel danger pour votre métier ?
Alors oui, clairement, parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est comment on arrive à prouver à quelqu'un que l'information qu'on propose est plus fiable que celle qu'il a décidé de croire à travers une fake news. On en parlait il n'y a pas longtemps avec un professeur à la pause déjeuner. En fait, la difficulté, c'est qu'à une époque, en fait, la fake news a toujours existé. C'est-à-dire que il y a 30 ans, tu rentrais dans un bar, tu avais envie de diffuser une fausse information, tu avais tout à fait le droit. Et comme aujourd'hui sur Internet, les gens qui étaient à l'intérieur du bar avaient le droit de te croire ou pas. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, ben, ce qui est devenu un bar, ben, en fait, c'est devenu la planète entière. Tu publies un truc sur X, tu publies un truc sur Facebook pour nos aînés, tu publies un truc sur Instagram. Il n'y a rien qui prouve, tant que c'est pas un compte certifié et que c'est pas un compte d'un média qui a une certaine réputation, que cette information est vraie. Donc c'est pour ça que nous on défend aussi notre travail, parce que effectivement tous les jours on vend quelque chose qui coûte 1,50€, mais on estime que pour 1,50€ les gens auront une vraie information, contrairement à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui le vrai défi, il est là en fait, c'est de prouver aux gens que notre information, elle a une vraie valeur ajoutée, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ce que tu peux trouver gratuitement sur les réseaux sociaux. Ce qui ne veut pas dire que toute l'information gratuite n'est pas bonne à prendre. Je prends l'exemple du service public, donc France Info, France Bleu, ce sont des informations fiables, sourcées de la part de journalistes. Il y a un compte que vous connaissez aussi peut-être, qui est celui d'Hugo Décrypte, qui lui est un vrai journaliste de formation, qui a décidé de créer une rédaction à part entière avec des informations fiables et sourcées. Eux, on peut leur faire confiance, mais c'est vrai que ce travail-là, il est toujours dans la curiosité de se dire qu'est-ce que je décide de croire ou pas et pourquoi je décide de le croire. Et ça, c'est le vrai défi aujourd'hui avec les fake news et les réseaux sociaux.
Et cette émission est terminée. Merci à Anthony Gonzalez d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir écoutés.
C'était
La Voix des Jeunes.
Un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.